Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, 14e épisode, le jansénisme.
Port-Royal, dont le nom sonne haut et clair comme dans Cyrano ou chez Alexandre Dumas, Port-Royal a été le berceau et la citadelle du jansénisme. On a écrit que ce mouvement religieux procède de la rencontre d'une doctrine, d'une abbaye, d'une famille. L'abbaye, donc, c'est Port-Royal, près de Chevreuse, à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris. La famille d'avocats, de parlementaires, récemment anoblis, c'est celle des Arnauds. Antoine, le père, Catherine Marion, la mère, et 10 enfants. 10 autres sont morts à la naissance ou en bas âge. La troisième des enfants, Jacqueline, qui deviendra mère angélique, est placée à 7 ans dans la vieille maison cistercienne de Port-Royal, avec le titre et la charge de coadjutrice de l'abbesse. 4 ans plus tard, à 11 ans donc, la voilà abbesse. Sans vocation, s'ennuyant à mourir, le monastère du reste était fort relâché. Pas de clôture, pénétrait au couvent qui voulait, en sortait de même toute sœur qui le souhaitait. Pour se distraire, les religieuses organisaient fréquemment des mascarades. Leurs valets en montaient d'autres sous la direction de l'aumônier. Celui-ci, Bernardin, ne savait pas traduire le pater, telle était sa science. La bibliothèque du couvent ne contenait qu'un livre religieux, un bréviaire. En 40 ans, les moniales n'avaient pas entendu plus de 7 ou 8 sermons. Mais en 1608, durant le carême, la mère Angélique Arnauds en entendit un, d'un capucin errant, girovague, en rupture avec son couvent, le père Basile, sans doute peu édifiant par lui-même, mais son sermon la toucha, la convertit. Elle devint à 18 ans une abbesse exemplaire, qui réforma de fond en comble son monastère. Dès l'année suivante, la clôture était si parfaitement rétablie qu'elle refusa de recevoir ses parents eux-mêmes, malgré leurs cris et leurs larmes, au cours d'une journée dite du guichet, restée fameuse. À la demande de Louis XIII, elle réforma aussi admirablement l'abbaye royale de Maubuisson, près de Pontoise. En 1625, l'insalubrité de Port-Royal des Champs la détermina à installer les religieuses à Paris, au faubourg Saint-Jacques, dans un local que leur ferveur pour l'Eucharistie leur fit appeler Port-Royal du Saint-Sacrement. Sa renommée grandissante attira dans son monastère des directeurs spirituels de haute qualité. Le père archange de Pembroke, l'évêque de Langres, Sébastien Zamé, le cardinal Pierre de Bérulle, le père de Condrenne, et c'était la florinata de la spiritualité du temps. Même Saint François de Sales, lors de son voyage à Paris, tint à s'entretenir avec la mère Angélique, puis échangea une correspondance avec elle. En 1633, un nouveau confesseur franchissait la clôture de Port-Royal. Qui devait avoir, ce confesseur, une lourde influence sur son destin. Jean-Ambroise Duvergier de Orane, abbé de Saint-Cyran. C'était un enfant de Bayonne, né en 1581 dans la confortable maison familiale du camp de Prats. Son grand-père était un simple boucher de la rue de la Vieille Boucherie, mais son père, Jean, habile négociant, régnait sur le commerce de la viande dans la ville et occupait des charges importantes dans l'administration de la cité. Sa mère avait un nom on ne peut plus de chez nous, elle s'appelait Agnès d'Etcheverry. On parlait habituellement le basque à la maison. Jean Ambroise avait un goût énorme pour l'étude. Avant que leur relation ne se gâte, Richelieu dira de lui qu'il était l'homme le plus savant du royaume. Il étudia chez les jésuites d'Agen, puis à la Sorbonne, puis à Louvain, où il fit une rencontre capitale pour notre sujet, celle d'un Hollandais d'Aqua, près de Leerdam, de 4 ans plus jeune que lui, Cornelius Jansen, à qui le jansénisme devra son nom. Leur amitié fut si étroite que Jansen fit différents séjours à Bayonne, au camp de Prats, maternellement soigné par Agnès d'Etcheverry, et que de 1612 à 1617, il reçut de l'évêque Bertrand Deschaux la charge de directeur du collège de la ville. Retourné dans son pays, il fit une belle carrière ecclésiastique et mourut en 1638, évêque d'Ypres dans les Flandres du Sud. Toujours, il garda des liens étroits avec Jean-Ambroise du Vergier, qui faisait également son chemin grâce en bonne partie à Bertrand Deschaux, le Baïgoriard, personnage de haute qualité intellectuelle et morale, qui jouissait de la confiante amitié d'Henri IV et qui finit ses jours sur le siège archiépiscopal de Tours. Du Vergier fut successivement curé en titre d'Itsassou, où il n'exerça aucun ministère, un certain Guillaume Thénat assura cette besogne à sa place, puis au bout de 18 mois à peine, chanoine de la cathédrale de Bayonne, puis abbé commendataire de Saint-Cyran, une abbaye du Poitou, dont il porta le nom selon la coutume. Et également, il fut vicaire général de Poitiers. En 1621, il était à Paris, résolu à n'accepter aucun évêché, et occupé essentiellement à deux choses, outre la prière et le soin de son âme, la direction des consciences et la polémique sur les problèmes politiques et religieux. À partir de 1634, Saint-Cyran régna sur les consciences de Port-Royal. Nous essaierons tout à l'heure de définir l'esprit du jansénisme. Pour l'heure, contentons-nous d'indiquer deux traits sans doute caractéristiques de la spiritualité du Bayonnais. Son pessimisme. Ne disait-il pas « Dieu m'a fait connaître que depuis 500 ou 600 ans, il n'y a plus d'église ?» Ce qui signifiait aussi bien qu'il avait pour mission d'en reformer une. Son pessimisme, donc, et sa rigueur. Pessimisme et rigueur, cela fait la méthode sévère. Orgueilleuse aussi, élitiste, Bossuet dira que cette rigueur enfle la présomption, entretient un chagrin superbe et un esprit de fastueuse singularité. L'influence de Saint-Cyran réunit dans les dépendances du monastère les premiers de ces hommes éminents qu'on appellera les solitaires de Port-Royal et qui constitueront le haut état-major du mouvement. Robert Arnaud d'Andilly, le frère aîné d'Angélique, leurs cousins Antoine Lemestre et Lemestre de Séricourt, de Bascle, Vital, qui sera l'oncle de Racine, Lancelot, l'ancien lazariste Antoine Singlin et d'autres. Le moins ardent n'est pas le plus jeune frère de mère Angélique, Antoine, qu'on appellera le grand Arnaud, et qui sera peut-être la figure la plus représentative du jansénisme et comme le chef du mouvement. Chacun de ces hommes est de haute valeur intellectuelle et morale. Et il songe déjà à mettre sur pied ces petites écoles qui seront très justement fameuses à cause de l'originalité et de la qualité de leur pédagogie. Le 14 mai 1638, Richelieu fit arrêter Saint-Cyran et l'enferma au château de Vincennes, d'où il ne sortit qu'après la mort du dictateur en février 1643. On ne connaît pas très exactement les mobiles de cette incarcération. Cependant, Cornelius Jansen avait écrit un pamphlet violent contre le ministre et Saint-Cyran lui-même, polémiste dans l'âme, se répandait en critique sur le gouvernement d'esclaves que le potentat imposait et sur les alliances qu'il entretenait avec les princes protestants d'Allemagne pour mettre en échec la catholique Espagne. L'élargissement du bâillonnet fut accueilli par des transports de triomphe de la part de ses nombreux fidèles et admirateurs, mais quelques mois plus tard à peine, Saint-Cyran, éprouvé par sa captivité, rendait l'âme, sans avoir cessé d'écrire et de polémiquer, conformément à une sentence qu'il aimait, « Stantem portet mori, il faut mourir debout ». 3 ans plus tard, en 1640, avait paru le livre posthume de Cornelius Jansenius, le nom d'auteur latinisé selon la coutume de notre ami Jansen, qui est la pièce maîtresse du jansénisme théologique, l'Augustinus, Augustin, Saint-Augustin. C'était un énorme in-folio de 1300 pages. Les deux amis, Saint-Cyran et Jansen, s'étaient passionnés pour l'œuvre de Saint-Augustin, particulièrement pour sa lutte contre l'hérésie de Pélage, selon laquelle l'homme peut assurer son salut éternel par les seules forces de sa volonté libre. Jansen se flattait d'avoir lu en entier 10 fois l'œuvre considérable du Saint-Docteur et 50 fois ses écrits anti-pélagiens. L'Augustinus, l'énorme ouvrage de Cornelius Jansenius, exagère la doctrine présente chez le docteur africain de la massa damnata, la foule des damnés, et de la seule et unique efficacité de la grâce divine pour le salut. La nature de l'homme est radicalement corrompue. Il ne peut rien attendre, aucun bien, que de l'aide que Dieu lui apporte gratuitement, sans aucun mérite de sa part. Dieu sauve qui il veut et rejette qui bon lui semble, c'est le prédestinationnisme, la doctrine de la double prédestination qui peut paraître tenir des bases de certaines formules de Pierre ou de Paul. Ainsi, par exemple, dans les Romains, on peut lire « Nous savons que ceux qu'il aime, Dieu les a appelés selon son dessein, car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. » Afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Et de même, Pierre s'adresse à ses frères dans la foi, comme à ceux que le Père a destinés à son royaume dès avant la création du monde, et le terme même d'élu, si courant dans le Nouveau Testament, exprime bien que certains sont choisis et par conséquent d'autres ne le sont pas. Donc, la doctrine de la prédestination n'est pas absurde. Mais, contrairement à Luther et davantage encore Calvin, l'Église catholique considère que tout homme reçoit de Dieu la grâce suffisante pour être sauvé et qu'il appartient à la libre volonté de l'homme de rendre cette grâce efficace, de rendre cette grâce efficace et déterminante pour son salut. Comme bien avant le Concile d'Orange de 529, le Concile de Trente a condamné de façon réitérée le prédestinationnisme. Ainsi, par exemple, dans ce canon-ci, si quelqu'un dit que la grâce de la justification n'est accordée qu'aux prédestinés à la vie et que tous les autres, appelés, tout en étant appelés, multi sunt vocati, pauci autem electi, eh bien, les autres ne reçoivent pas cette grâce parce que prédestinés au mal par la puissance divine, eh bien, celui qui soutient cette thèse, qu'il soit anathème. Les choses étant ainsi, et pour revenir à l'Augustinus, le prédestinationnisme s'y inscrit d'une façon limpide. Relevons-y ces quelques lignes parmi des milliers d'expressions semblables. Depuis le péché originel, l'homme a perdu son admirable liberté pour faire le bien, et il a mérité une très juste damnation, avec les châtiments du corps et de l'âme dans cette vie, un supplice éternel dans l'autre. Désormais, tout dépend de Dieu seul. Comme la prédestination consiste dans le libre choix que Dieu fait de ce qu'il veut gratuitement retirer de la masse de perdition, de même la réprobation consiste dans l'exclusion par Dieu des autres. Par conséquent, les théologiens modernes sont dans l'erreur, dit l'Augustinus, quand ils mettent actuellement en Dieu une volonté générale de sauver tous les hommes, de telle sorte qu'il accorde à tous des grâces suffisantes pour arriver au salut. Saint Augustin, c'est toujours Jansénus qui parle, applique toujours le « Deus vult omnes homines salvos fieri »« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » au seul prédestiné. Predestinatio est preparatio beneficiorum, quibus certissime liberantur, quicunque liberantur. Ceteri autem in massa perditionis, justo judicio relinquuntur. La prédestination, c'est la mise en œuvre des bienfaits, des grâces, par lesquelles ceux qui sont sauvés le sont nécessairement. Les autres reste dans la masse de perdition du fait d'un juste jugement de Dieu. Donc, Jansénus entretient, c'est l'évidence, les vues condamnées par le Concile de Trente. On est également frappé par la déconsidération, le mépris total dans lequel il tient la nature. Tout est péché, selon lui, dans l'ordre de la nature. Il n'y a de bien véritable que dans l'ordre spirituel, surnaturel, de la foi et de l'amour de Dieu. Les théologiens modernes, dit-il, qui distinguent les œuvres naturelles et les œuvres surnaturelles, s'inspirent d'une philosophie toute païenne et se séparent tout à fait de saint Augustin, pour qui les vertus dites naturelles sont en réalité et essentiellement de véritables vices, nés de l'amour des créatures. L'opinion qui admet l'existence de véritables vertus chez les infidèles est, d'après saint Augustin et le Concile d'Orange, une farce, un délire, une insanité, une erreur, une impiété contraire au sens chrétien. La vertu n'est pas autre chose que l'amour de Dieu, et donc toutes les vertus sont inséparables de l'amour de Dieu. La distinction apportée par les pélagiens entre les actes fructueux pour le salut ou surnaturels et les actes stériles qui ne sont que moralement bons, n'a aucun fondement, car toute vertu véritable se rapporte à Dieu et conduit à la vie éternelle. Les jansénistes vont tirer de ces vues de Jansénius, non pas comme cela pourrait être suivant une certaine logique, une passivité, un fatalisme, un je m'en fichisme, le sort éternel de chaque homme étant par Dieu déterminé d'avance, mais le sentiment que Dieu seul compte, que la foi est nécessaire à toutes les vertus, que la religion est l'unique affaire sérieuse et que la dévotion est la marque des prédestinés, tandis que la masse des négligents, des indifférents, des libertins court à sa perte. Le succès de l'énorme ouvrage de Jansénius fut considérable. Il fut lu, et bien plus encore discuté, avec passion. Port-Royal et les cercles qui lui étaient attachés le reçurent avec ferveur, mais les critiques furent nombreuses, comment ne l'aurait-elle pas été? Le théologal de Paris, les jésuites, la Sorbonne menèrent la charge et en 1643, le pape lui-même, Urbain VIII, après de longues hésitations, manifestait ses réserves par la bulle In Eminenti. 6 ans plus tard, en 1649, le syndic, le gérant, de la Sorbonne, Nicolas Cornet, résumait l'Augustinus en 5 propositions assez confuses, dont nous ne retiendrons que la dernière, la plus explicite. Il est semi-pélagien, donc hérétique, de dire que Jésus-Christ est mort et a répandu son sang pour tous les hommes sans exception. Cette proposition est déclarée par Nicolas Cornet et plus tard, en 1653, par la bulle pontificale Cum Occasione d'Innocent X, elle est déclarée impie, blasphématoire, calomnieuse, injurieuse à la bonté de Dieu et hérétique. Ce fut dès lors une effroyable mêlée. Pendant 20 ans, le parti majoritaire, Rome, le roi, Mazarin, la Compagnie de Jésus, Saint-Sulpice, Saint-Lazare, les 9 dixièmes des évêques, s'acharna à contraindre Port-Royal et ses amis à signer la condamnation des 5 propositions, puis un formulaire anti-janséniste. La résistance des fils de Saint-Cyran ne plia pas. Autour de Port-Royal des Champs, assaini par de savants drainages et réoccupés, les amis se pressaient. De nouveau solitaires, de la valeur de leurs aînés, comme Lancelot, Pierre Nicole, le nain de Tillemont, les médecins Palu et Hamon, un évêque, l'Istolfe de Suzard et combien d'autres, des femmes du plus haut rang, comme Anne de Rohan, princesse de Guéméné, Élisabeth de Choiseul, comtesse de Plessis-Guénégo, Madame de Souvray, marquise de Sablé, la duchesse de Longueville, qu'Antoine Sanglin avait ramené à Dieu après des années de scandale, Louise-Marie de Gonzague, future reine de Pologne, la duchesse de Luynes, la duchesse de Liancourt, la marquise de Sévigné, pour n'en citer que quelques-unes. Des évêques aussi. On en compte 11 pour refuser de condamner l'Augustinus et nombre de magistrats et de parlementaires. Et le mouvement s'étendait aussi à beaucoup de membres du clergé de second rang, curés et vicaires, qui sympathisaient ardemment avec une cause qui leur paraissait être celle de l'honneur de Dieu et qui était, ces curés et ces vicaires, gallicans en même temps que jansénistes. Parmi tout ce vacarme, ces libelles, ces opuscules, ces traités qui pullulaient, témoignant de l'extraordinaire intérêt que le royaume portait alors aux questions religieuses, il y a 2 publications qu'il faut mettre en relief. D'une part, le traité de la fréquente communion d'Antoine Arnauld. D'autre part, les 18 lettres à un provincial, les provinciales, de Blaise Pascal. Donc, le 25 août 1643, paraissait à Paris le traité de la fréquente communion, où les sentiments des pères, des papes et des conciles touchant l'usage des sacrements de pénitence et d'eucharistie sont fidèlement exposés. C'est le titre de l'ouvrage d'Arnauld. On connaît l'occasion qui donna naissance à cet écrit. La marquise de Sablé, dirigée par le jésuite de 16 maisons, malgré sa vie mondaine, communiait au moins tous les mois et n'hésitait pas à se rendre au bal le jour où elle avait communié. Par contre, son amie, la princesse de Guéméné, dirigée par Saint-Cyran, se montrait sévère et était scandalisée de voir sa rivale communier si souvent. Les 2 dames discutèrent, puis en référèrent à leurs directeurs respectifs. Le père de 16 maisons composa un opuscule sur la question de savoir s'il est meilleur de communier souvent que rarement. Les amis de Saint-Cyran rééditèrent son petit traité, la théologie familière, qui exposait ses théories sur la pénitence et l'Eucharistie. Arnauld reprenait les vues de Saint-Cyran. Il accusait le père de 16 maisons de détourner les âmes de la voie étroite de l'Évangile, de porter indiscrètement toutes sortes de personnes à participer très souvent à ces mystères terribles, de s'opposer à l'esprit de pénitence, d'en abolir les puissants exercices comme contraire à l'usage de l'Église. Il serait souhaitable, pensait-il, qu'on rétablit la discipline pénitentielle de l'Église primitive. La communion hebdomadaire ne doit pas être conseillée à toutes sortes de personnes, car elle requiert des dispositions qui ne sont pas communes parmi les chrétiens. Elle suppose un attachement ferme au bien. L'habitude du péché véniel doit éloigner de la communion. Antoine Arnauld applique à la communion, et en particulier à la communion fréquente, des règles strictes. Elle n'a de sens ni d'efficacité que si elle opère une union plus étroite avec notre Seigneur. Il faut être possédé d'un étrange aveuglement, disait-il, pour n'être pas touché par sa propre expérience et n'entrer pas pour le moins en quelque crainte que toutes nos confessions et que toutes nos communions ne soient autant de sacrilèges lorsque nous voyons sensiblement qu'elles n'ont produit aucun amendement dans notre vie. Les jésuites détruisent la vraie discipline et corrompent les cœurs. C'est une chose horrible qu'on n'a jamais vue, davantage de confession et de communion, et jamais plus de désordre et de corruption. Le livre eut un énorme succès. La clarté et la vigueur du style, la ferveur du ton, la force des démonstrations eurent un plein effet sur le public. 16 évêques de France, 20 docteurs de Sorbonne envoyèrent leur approbation et saluèrent cet ouvrage comme un livre providentiel destiné à combattre la morale relâchée. Mais il suscita aussi d'innombrables écrits polémiques et on observa, Vincent de Paul en fait état dans deux lettres datées de 1648, qu'il entraîna une baisse sensible dans la fréquentation des églises. Tout se passait, semble-t-il, comme s'il saisissait les populations catholiques d'un effroi sacré. 13 ans plus tard, entre le 23 janvier 1656 et le 24 mars 1657, Pascal, récemment conquis par Port-Royal, écrit, à la requête d'Arnauld et de ses amis, les 18 lettres écrites à un provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes récentes sur la Sorbonne. On les appelait les provinciales. La puissance et la clarté de la dialectique, la finesse et la pénétration de l'ironie, l'éloquence de la conviction font de ces lettres des chefs-d'œuvre de la littérature polémique, admirés même par ceux qui déplorent quand tel talent ait été mis au service d'une cause discutable. Pascal, répète-t-on, a frayé la voie à Voltaire. Pascal, en effet, s'est persuadé que le meilleur moyen de défendre les jansénistes est d'attaquer leurs adversaires, et d'abord les jésuites exécrés. Il joue du sarcasme et de l'indignation contre ses directeurs de conscience et ses confesseurs, dont le grand souci paraît être de gagner ou de garder les faveurs de rois et de grands qui se disent chrétiens et se conduisent tout autrement. Il attaque donc le probabilisme des casuistes qui autorise la moindre excuse, la théorie de la fin honnête qui justifie le duel et l'homicide en général, la restriction mentale, un mensonge à peine déguisé. On peut jurer qu'on n'a pas fait telle chose, quoi qu'on l'ait fait effectivement, en entendant en soi-même qu'on ne l'a pas fait en certains jours ou avant qu'on fût né. Rien ne révolte davantage celui qui écrira les immortelles pensées que la théorie de l'attrition, d'après laquelle on peut faire son salut sans aimer Dieu. Il écrit, c'est dans la 10e provinciale. Le prix du sang de Jésus-Christ sera de nous obtenir la dispense de l'aimer. Avant l'incarnation, on était obligé d'aimer Dieu. Mais depuis que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, le monde racheté par lui sera déchargé de l'aimer. Étrange théologie de nos jours. On ose lever l'anathème que saint Paul prononce contre ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. On ruine ce que dit saint Jean, que qui n'aime point demeure en la mort. Et ce que dit Jésus-Christ même, que qui ne l'aime point, ne garde point ses préceptes. Ainsi, on rend digne de jouir de Dieu dans l'éternité ceux qui n'ont jamais aimé Dieu en toute leur vie. Voilà le mystère d'iniquité accompli. Ouvrez enfin les yeux, mon Père, et si vous n'avez point été touché par les autres égarements de vos casuistes, que ces derniers vous en retirent par leur excès. Je le souhaite de tout mon cœur pour vous et pour tous vos pères, et je prie Dieu qu'il daigne leur faire connaître combien est fausse la lumière qui les a conduits jusqu'à de tels précipices et qu'il remplisse de son amour ceux qui en osent dispenser les hommes. Comme avait fait le traité d'Arnaud, les lettres anonymes à Louis de Montalt attirèrent au fils de Saint-Cyran un capital énorme de sympathie et d'admiration. En 1669, le pape Clément IX eut la sagesse de réclamer la paix et la bonne fortune de l'obtenir. Les sanctions prises de partout, par tous les pouvoirs, Rome, Versailles, les évêques, la Sorbonne, le Parlement, contre les uns, contre les autres, furent levées, les exilés rentrèrent à Paris, les polémiques s'espacèrent. La paix clémentine, comme on l'appela, dura tant bien que mal jusqu'à la fin du siècle, mais les dernières années du règne interminable de Louis XIV, 72 ans de règne, furent, parmi bien d'autres misères, marquées par un déchaînement de haine contre Port-Royal et les jansénistes. Toujours le roi avait exécré ce mouvement. Il appelait les jansénistes les républicains. Comment aurait pu lui plaire une doctrine sévère, mais vive et intime, ce sont des mots de Sainte-Beuve, qui s'élevait contre une religion de façade, contredite par la licence des mœurs, telle qu'elle était pratiquée par ce prince, avide de guerre et de splendeur ruineuse pour le pays, qui installait dans Montespan l'étage noble de Versailles et mettait la reine sous les combles, ce qu'il y avait de hautement estimable, d'admirable même, dans la spiritualité de Port-Royal, ce n'était pas le prince galant, tout occupé à séduire les filles d'honneur de son épouse, toutes disposées d'ailleurs à tomber dans ses bras, qui pouvait le comprendre. Sur le tard, cette antipathie tourna à l'obsession, et les pauvres moniales de Port-Royal furent l'objet d'une atroce persécution. Déjà, le 26 août 1664, bassement, pour flatter le roi, l'archevêque de Paris, Ardoin de Péréfix, entouré de policiers et de gendarmes, avait arraché à Port-Royal Bérangélique de Saint-Jean, la nièce de la fondatrice, et 11 de ses compagnes pour les disséminer en d'autres couvents et les remplacer au monastère cistercien par des visitandines. 15 ans plus tard, le 17 mai 1679, son successeur, Harlay de Champvallon, infâme, autant de mœurs que de caractère, éloigne du monastère les postulantes, les jeunes pensionnaires, les confesseurs, interdit à Port-Royal de recevoir des novices et limite à 50 le nombre des religieuses. Un peu plus tard, on leur interdira 4 ans durant de communier. En 1709, sur le conseil de son confesseur, le père Letellier de la Compagnie de Jésus, le roi dissout Port-Royal et disperse les religieuses. Mais comme les jansénistes viennent pleurer et prier dans la maison comme en pèlerinage, en janvier 1710, durant un affreux hiver de famine nationale, de froid terrible, de défaites militaires et d'angoisse, Louis XIV fait abattre le couvent et l'église, et comme les fidèles hantent le cimetière, il le fait raser, on jette les ossements dans une fosse commune et l'on voit, au dire du mémorialiste Saint-Simon, des fossoyeurs ivres et blasphémateurs s'occuper dans le charnier tandis que les chiens se disputent des restes échappés à la pourriture. La bataille des idées a repris dès le début du siècle à propos du cas de conscience monté en épingle par les jansénistes. Monsieur Gay, supérieur du séminaire de Clermont-Ferrand, avait refusé l'absolution à M. Fréhel, curé de Notre-Dame-du-Port, parce que ce prêtre avait lui-même absous l'abbé Périer, neveu de Pascal, janséniste notoire. En avait-il le droit ? En 1703, sur la forte pression du roi de France, Clément XI lance contre les disciples de Jansénius la bulle Vineam Domini. En 1713, il porte une nouvelle condamnation du jansénisme avec la bulle Unigenitus. L'arrêt pontifical visait principalement les réflexions morales sur les évangiles du prêtre Pasquier Quesnel, un ancien oratorien, ami d'Antoine Arnauld, devenu à la mort de ce dernier le chef de file du parti. L'ouvrage du père Quesnel, sans doute entaché par ailleurs d'esprit gallican et de richérisme, Edmond Richer attribuait l'autorité suprême dans l'Église à l'ensemble des évêques et des curés représentés par un concile général. Donc, l'ouvrage du père Quesnel avait tout de même été approuvé par de nombreux évêques, en particulier par Bossuet, qui avait écrit un livre pour le soutenir. Une fois Louis XIV mort, l'opposition à la bulle Unigenitus fut considérable. 31 évêques, parmi lesquels l'archevêque de Paris, le cardinal Louis-Antoine de Noailles, et celui de Bayonne, Mgr Druillet, des milliers de prêtres refusèrent de le prendre en considération. Le jansénisme pouvait paraître plus puissant que jamais. En fait, il roulait déjà vers la ruine. La pression conjuguée du Saint-Siège et de la cour fut la plus forte. Benoît XIII imposa la bulle Unigenitus comme un article de foi. Menacés d'être dépouillés de leurs bénéfices, les évêques jansénistes se soumirent à l'exception du seul Jean Soanen, titulaire du tout petit évêché de Senez dans la Haute-Provence. La bulle Unigenitus censure 101 propositions, plus ou moins fidèlement extraites, des réflexions morales sur le Nouveau Testament, qui expriment les thèses suspectes soutenues par Jansénius et ses disciples. Le prédestinationnisme, l'incapacité totale de la nature livrée à elle-même pour réaliser le bien, la confusion de l'Église avec le royaume de Dieu et le corps mystique et la déconsidération portée sur l'Église comme organisation humaine, l'insuffisance de l'attrition pour la réconciliation du pécheur avec Dieu, l'accent mis sur l'indépendance du sujet moral et la primauté de la conscience. On est tout de même étonné que chacune de ces propositions doive, d'après la bulle, être considérée comme scandaleuse, séditieuse, impie, blasphématoire, hérétique. Beaucoup relèvent à l'évidence du plus pur esprit chrétien, comme le déclarèrent bon nombre d'évêques et de théologiens. Je me borne à en relever une dizaine, parmi beaucoup d'autres, qui rendent un son aussi juste. La 27e. La foi est la première grâce et la source de toutes les autres. La 33e. Combien faut-il avoir renoncé aux choses de la terre et à soi-même pour avoir la confiance de s'approprier, pour ainsi dire, Jésus-Christ, son amour, sa mort et ses mystères, comme a fait saint Paul en disant « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». La 49e. Nul péché sans l'amour de nous, comme aucune bonne œuvre sans l'amour de Dieu. La 50e. C'est en vain qu'on crie à Dieu, mon Père, si ce n'est point l'esprit de charité qui crie. La 51e. La foi justifie quand elle opère, mais elle n'opère que par la charité. La 68e. Quelle bonté de Dieu d'avoir ainsi abrégé la voie du salut en renfermant tout dans la foi et dans la prière. La 73e. Qu'est-ce que l'Église, sinon l'assemblée des enfants de Dieu, demeurant dans son sein, adopté en Jésus-Christ, subsistant en sa personne, racheté de son sang, vivant de son esprit, agissant par sa grâce et attendant la paix du siècle à venir. La 79e. Il est utile et nécessaire en tout temps, en tout lieu et à toutes sortes de personnes d'étudier l'Écriture et d'en connaître l'esprit, la piété et les mystères. La 81e. L'obscurité sainte de la parole de Dieu n'est pas aux laïcs une raison pour se dispenser de la lire. La 82e. Le dimanche qui a succédé au sabbat doit être sanctifié par des lectures de piété et surtout des saintes écritures. C'est le lait du chrétien et que Dieu même qui connaît son œuvre lui a donné. Il est dangereux de l'en vouloir sevrer. La 83e. C'est une illusion de s'imaginer que la connaissance des mystères de la religion ne doivent pas être communiquées à ce sexe par la lecture des livres saints après cet exemple de la confiance avec laquelle Jésus-Christ se manifeste à cette femme, la Samaritaine. Ce n'est pas de la simplicité des femmes, c'est de la science orgueilleuse des hommes qu'est venu l'abus des Écritures et que sont nées les hérésies. La 91e. La crainte même d'une excommunication injuste ne nous doit jamais empêcher de faire notre devoir. On ne sort jamais de l'Église, lors même qu'il semble qu'on en soit banni par la méchanceté des hommes, quand on est attaché à Dieu, à Jésus-Christ et à l'Église même par la charité. La 94e. Rien ne donne une plus mauvaise opinion de l'Église à ses ennemis que d'y voir dominer sur la foi des fidèles et y entretenir des divisions pour des choses qui ne blessent ni la foi ni les mœurs. La 95e. Les vérités sont devenues comme une langue étrangère à la plupart des chrétiens, et la manière de les prêcher est comme une langue inconnue, tant elle est éloignée de la simplicité des apôtres et au-dessus de la portée du commun des fidèles. Et on ne fait pas réflexion que ce déchet est une des marques les plus sensibles de la vieillesse de l'Église et de la colère de Dieu sur ses enfants. Plus avant, dans le XVIIIe siècle, les jansénistes défrayèrent encore la chronique. D'une part, vers 1730, par les étranges scènes qui se produisirent au cimetière Saint-Médard. Précédemment, déjà, Port-Royal avait été favorisé par les miracles, des miracles comme ceux dont bénéficièrent la nièce de Pascal et la fille du peintre Philippe de Champaigne. Il y en eut davantage sur la tombe du jeune diacre François de Paris. Et voilà que quantité d'infirmes se mirent à fréquenter le cimetière et d'étranges scènes se produisirent. Jetés à terre par une force irrépressible, ils entraient en convulsion, puis se relevaient pour danser, hurler, avaler des cailloux, se taillader la peau. Le cardinal de Fleury, premier ministre de Louis XV, ordonna la fermeture du cimetière, à la porte duquel on accola le distique suivant, qui ne manquait pas de piquant, de par le roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. Pendant des décennies, enfin, à partir de 1746 jusqu'à la Révolution, presque, prospéra l'affaire des billets de confession. Le nouvel archevêque de Paris, ennemi des jansénistes, celui-là, Christophe de Beaumont, précédemment évêque de Bayonne, puis archevêque de Vienne, exigeait des moribonds pour qu'ils puissent avoir des obsèques et une sépulture religieuse, un billet de confession signé par un prêtre non janséniste. Le Parlement de Paris, qui sympathisait avec le gallicanisme et le presbytérianisme des fidèles d'Arnaud et de Quesnel, s'opposa farouchement à l'archevêque, qui fut exilé à trois reprises et accusé d'être un perturbateur de l'ordre public et un fauteur de schisme. Il fallut que Benoît XIV, le pape éclairé, intervînt pour modérer les exigences de l'archevêque et du même coup la hargne des parlementaires. Cependant, l'opinion générale se désintéressa du jansénisme qui l'avait tellement passionné précédemment. Tant de polémiques, de brouilles, de souffrances et de passions firent place à la fatigue et à l'indifférence. Les temps avaient changé. On avait moins de goût pour la grandeur et l'austérité que pour la légèreté, l'esprit frivole, la moquerie, les mœurs faciles, l'enrichissement rapide. Les historiens répètent à l'envi que, au milieu du siècle, vers 1650 donc, eut lieu une baisse très sensible de la foi et de l'intensité du sentiment religieux en France. Il resta cependant dans les diocèses bien des nostalgiques des temps anciens, fidèles à la mémoire et à l'esprit de Saint-Cyran et du grand Arnaud. S'ils étaient clairs aux religieux, on les écartait des honneurs et des charges, et ils s'enfonçaient dans leur solitude, assignés à résidence dans tel séminaire ou tel monastère ou telle prison. Et les laïcs, comme les prêtres, étaient privés des sacrements et enterrés sans cérémonie funèbre. C'est parmi bien d'autres, dans notre diocèse, le sort du chanoine de Harambourg, ou encore de Sauveur Clément de l'Harald de Harriet, depuis 73 ans prieur commendataire de Sainte Magdeleine d'Orisson, depuis 64 ans chanoine de la cathédrale de Bayonne, qui meurt nonagénaire en 1676, exilé dans sa maison de Harriet, à la limite de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Huarcise, toujours obstinément fidèle aux doctrines de Saint-Cyran et d'Antoine Arnauld. Faut-il porter un jugement sur le jansénisme ? On le condamne souvent avec une extrême dureté. Ainsi, dans un livre de spiritualité comme il y en a tant, Croire à l'amour, par le père Delbé, c'est la plus satanique des hérésies. De même pour l'historien des papes Ludwig Pastor, c'est une doctrine véritablement horrible. Dieu est un tyran qui à la fois ordonne et empêche d'accomplir. Une telle image de Dieu ne pouvait qu'entraîner les hommes à se séparer de lui. Notre compatriote José de Arteche voit en Saint-Cyran le parangon de tous les défauts que nous avons, nous autres basques. Il est notre miroir. Replié sur lui-même, comme beaucoup de ses compatriotes, il avait un regard à la fois suppliant et dominateur, celui de beaucoup d'hommes de chez nous. Disciples inconscients de Saint-Cyran, nous portons en nous cette règle de vie désastreuse d'Enac et de Deuchic. Tout ou rien. Notre terre basque produit souvent cette catégorie de gens entêtés, pathologiquement rivés à l'échec. Il était violent, injurieux, porté à l'insulte, sans aucun respect pour quiconque, en quoi que ce soit, ne pensait pas comme lui. Il est responsable de la déchristianisation accélérée d'une grande partie de l'Europe. Et je pourrais continuer ce genre de citation d'Arteche et risquer de sombrer dans la désespérance devant le triste tableau qui nous est fait de nous-mêmes. Il y a dans le jansénisme des aspects qu'on ne peut que déplorer. À mes yeux, d'abord et surtout, cette rage de la discussion interminable, de la polémique tatillonne dans laquelle ils n'ont que trop réussi à entraîner les autres, à moins que ce ne soit les autres qui les y ont entraînés. C'est ce manque absolu de tolérance, de bienveillance et de compréhension. Le résultat, c'est qu'ils coururent tous à leur perte, aussi bien les jésuites que les jansénistes. Ensuite, leur doctrine de la prédestination. Encore qu'ils aient peut insister sur ce point, et que, en fait, le jansénisme, tel qu'il a été pensé et vécu, ait été beaucoup plus de Saint-Cyran, d'Arnaud, de Pasquier-Quesnel que de Jansénius. Enfin, ce côté lugubre de la religion, ils ont poussé le sérieux jusqu'à la tristesse, et l'on sait que les saints tristes sont de tristes saints. Et il faudrait encore parler de leur élitisme, de leur répugnance pour les formes de la religion populaire. Mais je me demande si on ne fait pas du jansénisme un bouc émissaire, si on ne met pas sous cette étiquette tout le côté ascétique et abrupt qui est un des aspects de l'Évangile et que la tradition chrétienne a terriblement développé au cours des siècles à partir des pères du désert, en passant par l'ascèse monastique et la dévotion moderne. Ce ne sont pas les jansénistes qui ont inventé les jeûnes et l'éveil démesurés, la discipline, l'aère et le cilice, pas plus que l'enfer, le purgatoire. Ce n'est pas un janséniste, c'est un Renan du XVe, Tolère, qui dit « Tu veux être heureux dans ce monde et dans l'autre, en pleures-tu du sang, cela est impossible. » Elle est bien antérieure au jansénisme, la maxime si répandue chez les spirituels que tout ce qu'on donne au corps, on le retire à l'âme. De même, la formule selon laquelle tout est vanité, rien que vanité, hors des médias à le servir lui seul. Et pour prendre un autre exemple, je lisais dans le traité de spiritualité carmélitaine du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, nous le comprenons aisément, pour parvenir à ce détachement des parents, des amis et des biens de ce monde qui assure la liberté parfaite et qui fait qu'on se trouve tout dépaysé au milieu de ce monde, il faut travailler beaucoup, oui, beaucoup, et ne nous négliger en rien. Considérez, mes filles, ce que vous avez à faire ici. Dieu ne veut pas que vous réserviez quoi que ce soit. Il réclame pour lui tout ce que vous avez. Je n'ai pas l'impression que le jansénisme ait battu des records d'ascétisme. Notre Saint-Cyran, par exemple, Cartecce donne pour si outrancier, Brémond le présente comme un directeur de conscience avisé, mesuré et prudent. Il disait par exemple, « C'est assez de reconnaître ses fautes devant Dieu, après quoi on peut n'y plus penser. Vous ne supportez pas assez vos fautes, j'en fais plus que vous, et c'est merveille que nous n'en faisions pas encore plus. Étant aussi faibles que nous sommes, c'est une méchante tentation. » Il faut continuer de servir Dieu sans y avoir égard et se relever humblement et doucement de ses chutes. Dans son dernier ouvrage, Antoine Arnauld s'étonnait. On prétend combattre et détruire le jansénisme. Le jansénisme n'existe pas. C'est une invention, c'est un fantôme. Je ne serai pas si loin de penser comme lui. Enfin, de ce prétendu jansénisme si discrédité, vous, moi, qu'avons-nous en réalité reçu? L'Augustinus, il est bien oublié. La fréquente communion, les réflexions morales, on en a expurgé depuis longtemps nos séminaires et nos bibliothèques. Ce que nous avons reçu de ce qu'on appelle le jansénisme, ce sont des merveilles, qui nourrissent notre culture, notre goût et notre foi. Les provinciales, les immortelles pensées, Attali, Esther, la prière pour demander à Dieu le bon usage de la maladie. Il nous arrive très souvent de mettre de ces joyaux dans nos pauvres sermons et de citer par exemple Racine, d'un cœur qui t'aime, mon Dieu, qui peut troubler la paix. Il cherche en tout ta volonté suprême et ne se cherche jamais sur la terre, dans le ciel même. Est-il d'autre bonheur que la tranquille paix d'un cœur qui t'aime ?
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalot. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalot dans les années 1990 pour Radio Lapourdie. La semaine prochaine, 15e épisode, l'Église et la Révolution.